un village, minuit sonne, un forgeron frappe le fer.
Radio Libre en Périgord, lundi 11h30. En direct, la chronique des libres penseurs de Dordogne, groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis.
C'est pour la paix, dit-il, que je travaille, loin des canons.
Auditrice, auditeur, amis, citoyens, camarades, bonjour. Lundi 3 août 2026. Chronique du groupe Fred Zeller aujourd'hui, dans laquelle nous allons revenir sur un sujet que nous avons déjà plusieurs fois abordé, l'antiracisme et l'antisémitisme. Et je voudrais vous lire une enquête qui a été publiée sur Mediapart. Antisémitisme, le gouvernement généralise discrètement une définition controversée. La proposition de loi Yadan a été rejetée en partie à cause d'une définition qui tend à mélanger antisémitisme et critique d'Israël. Faute de pouvoir passer par la voie législative, le gouvernement tente de l'imposer autrement. Et donc ce texte est signé Sarah Benaya, Prisca Borel et Marie Turcan. Et il a été publié sur Mediapart le 2 août, donc c'est tout récent. Aurore Berger l'affirme. Son projet de loi sera adopté avant la fin de l'année 2026. La ministre chargée de la lutte contre les discriminations ne prend pas de grands risques. Le nouveau texte, citation, de cohésion républicaine par la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, rendu public le 9 juillet, ne contient absolument aucun point urticant. Déposé pour couper court au fiasco de la proposition de loi adoptée de la députée macroniste Caroline Yadan sur les formes renouvelées de l'antisémitisme, il ne reprend aucune de ces mesures. Mais si la voie législative est bouchée sur ces points, en coulisses, le gouvernement s'active par d'autres chemins. Selon nos informations, le secrétariat d'État chargé de la lutte contre les discriminations a ainsi voulu glisser une définition controversée de l'antisémitisme dans le nouveau plan national 2026-2029 contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations, surnommé Prado. Il faut qu'on fasse quelque chose sur la définition de l'IHRA. Les associations sont très en demande. Se sont entendus dire les représentants de différents cabinets au cours d'une réunion interministérielle début juillet 2026. L'IHRA, l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste, propose en effet une définition de l'antisémitisme sujette à controverse et sur laquelle s'appuyait la proposition de loi Yadan. Ce jour-là, des représentants du ministère d'Aurore Berger et de la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT+, d'ILCRA, présentent des propositions qui émanent de 5 groupes thématiques dédiés associant des représentants d'administration et des représentants d'associations, indique l'institution. Parmi les mesures proposées par ce document de travail consulté par Mediapart, l'une est à destination de la justice. Citation. Rappelez, par voie de circulaire du garde des Sceaux adressée au parquet, la définition de l'antisémitisme et les exemples donnés par l'IHRA, ainsi que l'obligation de qualifier systématiquement la circonstance aggravante lorsque le caractère raciste ou antisémite des faits est établi. Autrement dit, il s'agirait de rendre juridiquement contraignante une définition qui ne l'est pas, en passant par la voie réglementaire, une circulaire, et non législative. Dans ce document de travail, la DILCRA l'assure, il faudrait secouer les magistrats qui ne retiendraient pas systématiquement la circonstance aggravante de l'antisémitisme à cause, et c'est une citation, d'une mauvaise interprétation du fait, s'agissant notamment des nouvelles formes d'antisémitisme. Interrogée par Mediapart, l'institution confirme que cette mesure, citation, a fait l'objet de discussions à l'occasion des réunions thématiques organisées au cours de l'élaboration du nouveau plan. Mais on minimise l'importance au vu des très nombreuses propositions envisagées. Le but même de ces temps d'échange est d'être foisonnant dans le nombre et la teneur des propositions formulées. Ce sont au total plus de 150 propositions qui ont pu ainsi faire l'objet d'une expertise et de discussions, précise-t-on. Le ministère de la Justice a, semble-t-il, peu goûté cette suggestion. Citation. Ayant analysé cette recommandation, nous avions fait état de notre avis défavorable, nous indique-t-on. Nous avions rappelé que la définition de la circonstance générale aggravante liée aux actes racistes, antisémites et discriminatoires correspondait à la vision universaliste du droit pénal français en ne distinguant pas selon les actes ou discours de haine. Nous estimons par ailleurs à la relecture qu'une telle définition conduirait à porter atteinte au principe d'indépendance de l'autorité judiciaire en ce qu'elle reviendrait à contraindre ou à minima orienter le travail de qualification opéré par les magistrats du parquet et à restreindre leur appréciation à la lumière de cette définition. Fin de citation. La définition stricto sensu de l'antisémitisme de l'IHRA n'est dénoncée par personne. Elle énonce factuellement que, citation, « l'antisémitisme est une certaine perception des Juifs qui peut se manifester par une haine à leur égard. Les manifestations rhétoriques et physiques de l'antisémitisme visent des individus juifs et non et ou leurs biens, des institutions communautaires et des lieux de culte. » Fin de citation. Le litige porte sur les exemples accolés, dont certains ont pris une portée nouvelle après les attaques sanglantes du 7 octobre 2023 et la guerre génocidaire menée par Israël en représailles, sont considérés comme de l'antisémitisme selon l'IHRA. Citation. Le traitement inégalitaire de l'État d'Israël à qui l'on demande d'adopter des comportements qui ne sont ni attendus ni exigés de tout autre État démocratique. Fin de citation. Ou encore le fait, autre citation, d'affirmer que l'existence de l'État d'Israël est le fruit d'une entreprise raciste. Fin de citation. Or, même le principal rédacteur de cette définition, Kenneth Stern, considère aujourd'hui qu'elle pose problème pour, citation, répondre à l'antisémitisme. Au-delà, et on continue une citation, au-delà des questions juridiques et de liberté d'expression et de retour de flamme inévitable lié à la création de martyrs de la liberté d'expression, le fait d'utiliser comme moyen d'aborder l'antisémitisme limite notre capacité à lutter efficacement contre ce fléau, a-t-il déclaré devant le Sénat américain en mars 2025. Donc, je rappelle qu'il s'agit de Kenneth Stern, qui est le principal rédacteur de la définition de l'antisémitisme selon l'IHRA. L'idée, c'est une citation, qu'il existerait une exception israélienne en termes de liberté d'expression et de jugement politique est une mauvaise chose, a également insisté Mark Mazower, auteur d'un livre de référence sur l'antisémitisme. Lorsque la députée Caroline Yadan, élue des Français de l'étranger dans la circonscription d'Israël, a fait revenir le débat sur l'antisémitisme et la critique d'Israël à l'Assemblée nationale en janvier 2026, son texte a ainsi suscité une levée de boucliers de la part de professionnels de la recherche redoutant des restrictions de la liberté académique, mais aussi de militantes et militants politiques et associatifs qui dénoncent notamment les « procès bâillons » pour « apologie du terrorisme ». Plusieurs rapporteurs de l'ONU avaient enjoint à la députée en avril de, citation, « détailler sa position concernant l'utilisation de la définition de l'antisémitisme de l'IHRA, étant donné que cette définition est incompatible avec le droit international des droits humains ». Fin de citation. Et il rappelait que, autre citation, « des centaines d'universitaires juifs et d'acteurs de la société civile ont également condamné cette définition, y voyant une instrumentalisation de l'antisémitisme visant à faire taire les critiques des pratiques d'Israël, y compris des violations du droit international ». Fin de citation. La France a adopté dès décembre 2019 une résolution, un texte non contraignant juridiquement, visant à pousser le gouvernement à diffuser la définition de l'IHRA auprès des services éducatifs, répressifs et judiciaires. Fin de citation. À l'époque, le texte divisait déjà jusque sur les bancs des macronistes, alors même qu'Emmanuel Macron l'avait soutenu lors du dîner annuel du Conseil représentatif des institutions juives de France, le CRIF. Déjà adopté dans l'éducation nationale. Si le projet de circulaire à destination de la justice n'a pas abouti, Mediapart a constaté que la définition de l'IHRA s'est quand même frayé un chemin jusque dans le plan national 2026-2029. Celui-ci généralise en effet l'utilisation d'un document, le VADMECOM, qui l'intègre depuis 2020. C'est le ministère de l'Éducation nationale qui a adopté en 2020 ce VADMECOM nommé « Agir contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations liées à l'origine à l'école ». un texte pensé comme un outil à destination des personnels scolaires par ses auteurs, la DILCRA, le Conseil des sages de la laïcité et la Direction générale de l'enseignement scolaire. Mis à jour en février 2026 à la demande de l'administration centrale, le texte a de nouveau repris la définition de l'IHRA. Pour Yannis Schroeder, secrétaire général du Conseil des sages de la laïcité, le comité de pilotage s'est appuyé pour ce document sur l'unique définition votée par le Parlement, pourtant non contraignante. Citation : Une administration centrale se plie à ce que décident les pouvoirs publics et la représentation nationale. Elle n'a pas vocation à remettre en cause ce qui a été voté. Et la déclaration de Jérusalem, qui propose une autre définition plus progressiste, c'est une note de la rédaction, n'a été votée nulle part, justifie-t-il, assurant que ce travail collectif se veut le plus neutre et le plus scientifique possible. Et on poursuit dans la citation. Assimiler toute critique de la politique israélienne à une haine des Juifs prend le risque de renforcer les antisémites en décrédibilisant la lutte contre l'antisémitisme, note ainsi le texte, tout en relayant in extenso tous les exemples décriés de la définition de l'IHRA. Très critique vis-à-vis de ce guide, l'ancien sage Alain Policard, démis de ses fonctions par l'ex-ministre Nicole Belloubet en 2024, regrette quant à lui un choix dangereux et politique visant à empêcher toute critique de l'occupation et de la colonisation des territoires palestiniens par Israël. Ce vade-mecum est accessible en ligne publiquement, mais il n'a jamais fait l'objet de communication externe puisqu'il est destiné au personnel de l'éducation nationale, nous indique le ministère. Il s'agit d'un outil de formation destiné au personnel qui ne crée aucune norme, aucune infraction ni aucune obligation, assure-t-on. Le guide vient donc de bénéficier d'une belle publicité au sein du plan Prado 2026-2029. Une mesure prévoit de généraliser au sein de toutes les administrations l'usage du vade-mecum agir contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations liées à l'origine, afin que l'ensemble des formations continues s'appuie sur des définitions unifiées du racisme, de l'antisémitisme et des discriminations. Ce tour de passe-passe permet d'étendre la généralisation de la définition controversée sans avoir à écrire noir sur blanc le sigle IHRA, et ce, pour toutes les administrations, soit la santé, les collectivités territoriales ou encore la police et la justice. Ce nouveau plan prévoit en effet de généraliser au sein de toutes les administrations l'usage du vade-mecum afin que toutes les formations puissent reposer sur des définitions unifiées du racisme, de l'antisémitisme et des discriminations, confirme la DILCRA à Mediapart. Alors que la formation à ces enjeux se développe très fortement au sein des différentes administrations publiques, ce document a le mérite de fournir des définitions partagées et harmonisées. Le vade-mecum reprend en effet la définition de l'IHRA. Voilà, donc c'est la fin de ce texte de compte-rendu de l'enquête de Sarah Benyaya, Félix Caborel et Marie Turcan, publié donc par Mediapart. Alors, il se trouve qu'à la Libre Pensée, nous avons publié un numéro de notre série Arguments sur cette question précisément, à propos d'un vade-mecum sur le racisme et l'antisémitisme. Vous avez dit « lutter contre le racisme » ou « mise en œuvre d'une idéologie d'État ». Et dans ce numéro d'arguments, qui, je le rappelle, est accessible, en accès libre, en version électronique, sur le site de la Fédération nationale de la libre-pensée, il est ce document, cette brochure, est préfacée par un texte, un très très beau texte, que je crois d'abord vous avoir déjà lu, mais j'irai, vu son importance et la qualité du texte, c'est pas inutile de le rappeler. C'est un texte signé Mornia Lapsi. Et Mornia Lapsi, je le rappelle, est militante antiraciste, inspectrice du travail et membre de l'association Coudes à Coudes. Alors, voilà ce que dit Mornia Lapsi. Quand l'antiracisme institutionnel fabrique l'inégalité, discipline les consciences et abîme les psychismes. J'écris cette préface, dit Mornia Lapsi, j'écris cette préface en conscience politique, historique et humaine. je ne l'écris pas pour accompagner poliment un texte, mais pour prendre position. Car ce que Christian Eschen analyse et démontre, donc Christian Eschen est l'auteur de la partie essentielle, de ce, la plus importante de ce numéro d'argument. Car ce que Christian Eschen analyse et démontre n'est pas un simple document administratif de plus dans la production ministérielle. Ce vademécum du ministère de l'Éducation nationale n'est ni neutre, ni innocent, ni simplement maladroit. Il est une pièce idéologique à part entière, inscrite dans une séquence politique précise, et ses effets dépassent largement le cadre scolaire. Ils atteignent les corps, les esprits, les psychismes, en particulier ceux qui sont déjà les plus fragilisés par l'ordre social. Ce texte s'inscrit dans une époque marquée par la montée de la réaction, par la banalisation de l'autoritarisme, par la transformation de la contrainte en langage pédagogique. Il prétend lutter contre le racisme, mais en organise en réalité la reconfiguration. Il parle d'égalité tout en enseignant l'acceptation de l'inégalité. Il adopte les formes de la prévention et de la morale républicaine pour imposer une normalisation idéologique. Il ne vise pas à émanciper, mais à contenir. L'école n'est pas ici pensée comme un lieu d'émancipation, mais comme un espace stratégique. Un espace où se forgent les intellects, mais aussi les affects, les représentations de soi, l'estime personnelle, le sentiment de légitimité à exister. Un espace où l'on apprend très tôt ce qui peut être dit et ce qui doit rester tu, ce qui est digne d'être dénoncé et ce qui doit être relativisé, intériorisé, supporté. Ce vademécum prépare les esprits à un monde où chacun est sommé de rester à sa place, où les rapports de domination ne disparaissent pas, mais deviennent indisibles. On y apprend à classer les racismes, à les compartimenter, à les hiérarchiser. On y apprend que toutes les discriminations ne se valent pas, que toutes les souffrances n'ouvrent pas les mêmes droits à la parole, que certaines colères sont légitimes quand d'autres deviennent immédiatement suspectes, pathologisées, réprimées. Diviser les racismes, c'est diviser celles et ceux qui les subissent. C'est empêcher toute lecture globale des dominations. C'est une méthode politique éprouvée et ce document s'y inscrit pleinement. L'usage désormais massif de la fiction du prétendu racisme anti-blanc participe directement de cette entreprise. Ce n'est pas une erreur conceptuelle, c'est un instrument idéologique. Il permet de vider le racisme de son épaisseur historique, coloniale et esclavagiste, de ses dimensions structurelles, pour en faire une abstraction symétrique et inoffensive. Il renvoie dominant et dominé dos à dos, neutralise les luttes antiracistes réelles et fabrique une fausse équivalence qui bénéficie toujours aux mêmes. Le vademécum ne déconstruit pas clairement cette fiction. Il en aménage au contraire les conditions de retour juridiques et symboliques. Cette ambiguïté est un signal. Elle instille la peur de trop nommer les dominations, de trop dénoncer les injustices, sous peine d'être soi-même renvoyé à l'accusation. Mais la violence la plus profonde de ce texte est ailleurs. Elle est dans ce qu'il prépare psychiquement. Ce texte est aussi une manière de préparer les psychismes à la maltraitance. Il vient frapper celles et ceux qui souffrent déjà dans une société profondément réactionnaire. Celles et ceux qui vivent dans la précarité, celles et ceux qui sont identifiés comme musulmans réels ou supposés, celles et ceux qui sont déjà déshumanisés. Ces populations subissent des violences institutionnelles répétées de la part de l'État, de la police, des institutions, parfois jusqu'à la mort. Des violences où l'on dispose de leur corps comme s'ils n'étaient pas pleinement humains, où l'on porte atteinte à leur liberté de circulation, où les contrôles aux faciès, les contrôles des corps, des déplacements, des présences dans l'espace public sont devenus un mode opératoire ordinaire de l'État. Un État qui sanctionne, non pas tant pour ce que l'on fait, mais pour ce que l'on est. Et ces mêmes enfants, ces mêmes jeunes, on vient leur imposer encore de nouvelles règles, de nouvelles injonctions, de nouveaux cadres moraux par le biais de ce vademécum. On leur dit comment parler, comment penser, ce qu'il est permis de comparer, ce qu'il est interdit de nommer. Face à cela, ils se replient encore davantage, ils réagissent encore davantage, ils perdent encore davantage l'amour qu'ils devraient avoir d'eux-mêmes. Or, l'école devrait précisément être le lieu où se construisent l'estime de soi, la confiance, la possibilité de se projeter, de rêver. La violence est immense lorsque ce que l'on vit à l'extérieur, la précarité, la stigmatisation, les contrôles, la peur, se combinent avec la violence institutionnelle vécue à l'intérieur de l'école. Ces violences s'articulent, se renforcent, se cristallisent. Elles participent à préparer très tôt l'organisation sociale et économique, orientant certains profils vers les travaux les plus pénibles, les plus dévalorisés, les plus mal payés. L'école n'est pas neutre dans ce processus, elle le prépare. Ce vade-mecum contribue ainsi à un désastre de l'estime de soi, à un désamour intérieur, à une souffrance psychique aujourd'hui largement identifiable. Une souffrance qui pousse une partie de ces jeunes à chercher ailleurs une reconnaissance d'existence, une reconnaissance d'humanité, parfois dans des pratiques ou des consommations qui les abîment davantage. Non parce qu'ils veulent se perdre, mais parce qu'ils veulent exister, parce qu'ils veulent être vus comme des enfants, comme des êtres humains. Il y a en filigrane, dans ce texte, un doigt pointé, une adresse ciblée, une injonction claire, un avertissement, un blâme anticipé, une sanction anticipée, celle de l'école autant que celle de la société. Le message est limpide. Attention, restez à votre place sociale, votre place raciale, votre place politique, votre place psychique. Ce vade-mecum n'est pas un outil de conscientisation, ni un outil d'émancipation. Il est un outil de recadrage, d'anticipation, de discipline. Il dit aux futurs sujets présumés conscients, présumés contestataires, « C'est nous qui décidons de votre avenir. C'est nous qui décidons de ce qu'est la justice, de ce qu'est l'égalité, de ce qu'est la liberté d'expression. Elles existeront, mais selon nos termes. Toute contestation sera neutralisée. » Ce dispositif s'inscrit pleinement dans le contexte actuel de la criminalisation des solidarités, notamment du soutien au peuple palestinien. Aujourd'hui, utiliser les fondements mêmes de l'état de droit, le droit international, la liberté d'expression, pour dénoncer un génocide, une colonisation de peuplement, expose à l'incrimination et à la sanction. Le droit est détourné pour protéger un état et une idéologie. Cette instrumentalisation met en danger tout le monde, y compris celles et ceux qu'elle prétend défendre, en alimentant amalgame, tension et haine. Dans le même temps, d'autres génocides continuent d'être niés ou relégués, comme celui des Tutsis, ceux des peuples autochtones, les crimes coloniaux de masse, notamment en Algérie. Cette hiérarchisation n'est pas neutre. Elle participe d'un récit national permettant la continuité de l'injustice. Si ce vade-mecum existe, c'est parce que quelque chose échappe, parce que les consciences se libèrent, parce que les jeunes générations font des liens, refusent les silences imposés, contestent les privilèges devenus institutionnels. Face à cela, l'État choisit l'anticipation, le cadrage, la discipline. Quoi de plus simple que de modeler les enfants, des jeunes encore en construction? Or, ce qui nous incombe désormais, ce qui nous engage collectivement, c'est de dire clairement que le vade-mecum dont nous avons besoin n'est pas celui-ci. Le vade-mecum nécessaire est un vade-mecum des libertés réelles, liberté de conscience, liberté d'être ce que l'on est, liberté de faire société sans être hiérarchisé, sans être assigné, sans être écrasé. Il doit être porté par celles et ceux qui sont les premières victimes de ce système, mais aussi par celles et ceux qui pensent ne pas être concernés, et également par celles et ceux qui se revendiquent de la lutte, mais qui, parfois sans le mesurer, participent encore de ce système en acceptant des privilèges décrétés par lui. Faire société, c'est aussi accepter de regarder en face ce que l'on reçoit, ce que l'on conserve, ce que l'on doit renoncer à partager. Ce vade-mecum à construire doit outiller à la justice réelle, pas à la justice bourgeoise, pas à celle qui incarcère massivement des personnes racialisées, pas à celle qui protège les intérêts de domination. Une justice qui répare, qui restaure, qui égalise concrètement les conditions de vie et d'existence. Il doit être porté collectivement, dans la rue, le poing levé, en foulant le pavé devant les institutions, en disant ensemble que les privilèges de classe, de race et de genre doivent être abolis. Le dire, c'est déjà agir. L'écrire, c'est déjà transformer. L'enseigner, c'est déjà préparer une autre société. Nos enfants le méritent. Ils méritent de vivre, de pas seulement et pas seulement de survivre. Ils méritent d'être heureux ensemble, sans que l'un écrase l'autre, sans injonction permanente à rester à une place assignée, sans atteinte à leur dignité, sans ce sentiment destructeur de ne pas être pleinement humain. Ils méritent une école qui respecte l'histoire de chacune et chacun, qui écoute enfin la parole de celles et ceux qui ne sont jamais entendus, qui reconnaît l'humanité de celles et ceux qui souffrent. C'est cela le vade-mecum que l'éducation nationale devrait porter aujourd'hui. Et c'est déjà profondément ce que fait le travail de Christian Eschenne. Ce travail doit devenir endémique. Il participe de la véritable lutte contre la réaction. Il participe de la véritable construction d'un État qui se dit de droit parce qu'il repose sur l'égalité concrète, la dignité effective, la justice réelle et la santé psychique de toutes et tous. C'est au nom de cette exigence que je signe cette préface et que je l'assume pleinement. Mornia Lapsi, militante antiraciste, inspectrice du travail, membre de Coudes à Coudes. Voilà, il me semblait important de rappeler ce très 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 beau texte et qui est donc une préface dans ce numéro de la série Arguments, qui est donc une analyse du fameux vade-mecum que le gouvernement fait circuler aujourd'hui dans l'ensemble des administrations et notamment à l'école pour l'imposer comme un point de vue, comme une véritable idéologie d'État aux consciences les plus faibles, c'est-à-dire aux enfants dès leur plus jeune âge. Alors, dans ce numéro d'arguments, bon, il y a bien évidemment également tout le texte à une quarantaine de pages écrites par Christian Eschenne et qu'a donc célébré, entre guillemets, Mornia Lapsi. Il y a également un mythe qui est dénoncé, c'est le mythe concernant Paul Bert et la prétendue mission civilisatrice républicaine. Je vous en ferai part dans une prochaine émission parce que là aussi, quand on voit le nombre d'établissements scolaires dénommés Paul Bert, quand on vous fera part de ces lignes, ça pose un certain nombre de questions. Et puis, puisqu'il me reste quelques minutes, je voudrais signaler la sortie d'un autre numéro d'arguments dont je parlais également dans une prochaine émission. C'était le numéro 35 de cette série Arguments sur la question de l'Algérie, le FLN et les Harkis. Donc là aussi, j'ai commencé à en prendre connaissance. Il y a vraiment de très, très, très beaux textes. Et c'est également un livre qui est une brochure qui est en accès libre, en lecture et en téléchargement via Calameo à partir du site de la Fédération nationale de la libre pensée, fnlp.fr. Voilà, donc nous en avons terminé pour cette chronique de ce 3 août 2026. Je remercie Yanis pour avoir assuré la technique de cette chronique et vous donne rendez-vous pour une prochaine émission, une prochaine chronique du groupe Fretzeller. Eh bien, ce sera lundi prochain et nous serons le 10 août.
En forgeant un socle de charrue.
C'était la chronique du groupe Fretzeller de la libre pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord et vous pouvez également retrouver sur le site du groupe Fretzeller lpdordogne.fr toutes les chroniques du groupe Fretzeller sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique la semaine prochaine dès lundi 11h30.
Elle tient ton glaive bras.